cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard le 10 novembre 1987.
Ce que nous sommes, toujours poussés par l'interrogation, qu'est-ce que c'est que la réalité humaine ? Nous arrivons à préciser les 10 prédicaments. Et lorsque nous interrogeons qu'est-ce que c'est que l'être, puisque la réalité la plus parfaite que nous pouvons expérimenter, c'est l'homme. Nous voyons que cette interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» se ramène à l'interrogation « qu'est-ce que c'est que la substance ?» Cette petite phrase d'Aristote, qui a souvent été très mal comprise, et qui pourtant est très simple. Dès qu'on se pose la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?» on sait que cette interrogation nous conduit à rechercher dans la réalité expérimentée ce qu'il y a de premier. C'est le propre de l'interrogation « qu'est-ce ?» Le TST, « qu'est-ce que c'est que l'être ?» On ne peut pas s'arrêter à des choses secondaires, puisque s'arrêtant à des choses secondaires, on n'atteint pas ce qu'il y a de tout à fait principal, d'essentiel, de premier. C'est pour ça que je ne peux pas m'arrêter, quand je pose la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?», je ne peux pas m'arrêter à la quantité, je ne peux pas m'arrêter à la qualité, je ne peux pas m'arrêter à la relation. Puisque tout cela est relatif à quelque chose qui est antérieur. Pierre est intelligent. Bon, si je veux savoir ce qu'est Pierre, ce n'est pas suffisant de m'arrêter à l'intelligence. Surtout si je veux savoir ce qu'est l'être dans Pierre. Puisque l'intelligence n'est qu'une détermination seconde. C'est la même chose pour la quantité. Donc, l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Il faut tout le temps venir à la signification profonde de cette interrogation. L'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» déblaye tout le terrain des 9 prédicaments pour aboutir à ce prédicament premier, qui est la substance. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Ça ne peut être que ce qu'il y a de premier dans la réalité expérimentée. Et cette réalité expérimentée étant l'homme, puisque parmi toutes les réalités expérimentées, la plus parfaite, c'est l'homme. C'est donc dans l'homme que je découvre le mieux ce qu'est l'être. J'aboutis donc à dire qu'en interrogeant « qu'est-ce que c'est que l'être ?», ça revient à me demander « qu'est-ce que c'est que la substance ?». Je vous rappelle ce que je vous ai déjà dit. Ceci ne veut pas dire du tout que pour Aristote, l'être et la substance ont la même signification. Ce serait contradictoire avec tous les prédicaments. Donc ce serait contradictoire à la démarche même d'Aristote. Mais, au point de vue de l'interrogation, quand je veux savoir ce qu'il y a de premier dans ce qui est, alors là, je peux dire que ce qu'il y a de premier dans ce qui est ne peut être que la substance. Mais, et c'est là le point de vue délicat que nous allons maintenant aborder, au niveau des prédicaments, j'aboutis à ceci. Substance première, substance seconde. Substance première, le totéti, c'est-à-dire pierre. Substance seconde, c'est-à-dire homme ou animal. Et évidemment, homme est plus proche de pierre que animal. Donc, en réalité, je laisse tomber animal et je regarde que homme et pierre. Puisque je veux savoir ce qu'est le premier. Et que animal est quelque chose de fondamental, mais moins premier que homme. Et il faut toujours se laisser conduire par cette interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Qu'est-ce que c'est que ce qui est? Du point de vue de l'être. Donc, cette interrogation me ramène à cela. Au niveau donc prédicament, donc au niveau descriptif, c'est tout à fait normal d'aboutir à ces deux aspects, tout à fait premiers. Pierre et homme. Mais je ne peux pas m'arrêter à cela. Dans mon interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Oui. Dans la description. La description peut très bien s'arrêter à la dualité. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et l'interrogation ne peut pas s'arrêter à la dualité. La description peut s'arrêter à la dualité. Pourquoi? Parce que les réalités que j'expérimente, c'est-à-dire moi-même, c'est une réalité complexe. Je suis une réalité complexe, c'est facile à comprendre. Vous avez deux mains. Très ennuyeux. Et d'autre part, c'est bien pratique. Parce que si vous étiez manchot, vous verriez que ça irait moins vite. Vous avez deux yeux. Quand on n'en a qu'un, c'est ennuyeux. C'est toute une question de relief qu'on n'a pas. Et ainsi de suite. Vous avez deux narines. C'est curieux, hein, dualité comme ça. Vous n'avez pas deux bouches. C'est très curieux. C'est très curieux. Comment Dieu a inventé la figure humaine. Drôle d'histoire. Comment Dieu a voulu que l'homme soit un animal droit. C'est non pas qu'il marche à quatre pattes. À quatre pattes, vous voyez, la description est sur quatre. C'est pour ça que le chiffre 4 est tellement important à cause des quatre pattes. Vous touchez le sol de quatre manières différentes. Quand vous êtes à quatre pattes, quand vous êtes que sur deux pieds, vous ne touchez que deux. Oui, descriptive, hein, au point de vue de la description. C'est à partir de là, du reste, que naît toute une symbolique. Toute la symbolique pythagoricienne, qui est la première symbolique au niveau philosophique, toute la symbolique pythagoricienne à l'égard de l'homme, naît d'un point de vue descriptif. L'art reste à un niveau symbolique parce qu'il est descriptif. Vous ne demandez pas à l'artiste d'aller au-delà du symbole. Il ne serait plus l'artiste. Donc la description accepte la dualité. Et ramener la description à cette dualité, ce n'est pas si mal, parce que la description implique les 9 autres prédicaments. Au point de vue descriptif, c'est très important. Regardez le situs. Vous n'avez qu'à regarder une caricature. La caricature met en pleine lumière un aspect du symbole. Les gens qui ont le sens de la caricature ne s'encombrent pas d'une quantité de détails, mais un aspect, le nez. Toute la figure se ramène par le nez. Si vous avez un gros nez, ou un grand nez, ou toute la figure se ramène à un œil, le cyclope, et ainsi de suite. Le situs est très important au point de vue, au point de vue caricature, mais au point de vue de l'être. C'est très secondaire. Que vous soyez assis dans un bon fauteuil, bien rembourré, que vous soyez assis sur un petit strabontin, au point de vue artistique, c'est très très différent. Car regardez la même personne, surtout si elle est un peu ronde, c'est pas la même chose du tout si elle est dans un bon fauteuil ou si elle est sur un strapontin. Donc le situs, vous voyez, ça donne le point de vue artistique. Tandis qu'au point de vue de l'être, ça ne change rien du tout. Il pèse le même poids s'il est assis dans un fauteuil que s'il est sur un strapontin. Quantitativement. Qualitativement, il a même intelligence. Il a le même cœur. Rien changé. Point de vue situs, ah oui, l'ordre des parties dans le tout. C'est pas la même chose si vous êtes étendu par terre ou si vous êtes debout, et ainsi de suite. Hein. Au point de vue artistique, vous voyez que chacun des prédicaments sont très importants au point de vue descriptif, mais ils se ramènent de fait à ces deux. Et au point de vue descriptif, c'est pas gênant. Parce que je suis dans un ordre qui essaie de mettre un peu d'ordre, d'harmonie, dans la multiplicité des déterminations. Et je ramène tout, substance première, substance seconde. Ça, je crois qu'on peut assez facilement le comprendre. C'est substance première et substance seconde qui, dans l'ordre de l'être, apparaissent comme fondamentales. Pierre, il existe. C'est la seule chose qui existe. Les autres n'existent qu'en fonction de Pierre. Tout est relatif à Pierre. Tout est relatif à la substance première. Même l'homme, puisque l'homme n'existe que dans Pierre. Vous n'avez jamais vu l'homme en soi. Vous voyez, comme les prédicaments, tout de suite, hein, montrent que Platon a tort. Je ne peux pas m'arrêter à l'homme en soi. Puisque l'homme en soi n'existe que dans Pierre. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ce qui existe. Toujours l'interrogation, qu'est-ce qu'il est ? L'être dans l'homme, c'est Pierre. C'est Pierre, c'est Jacques, c'est Pierre. Donc, tout se ramène à ces deux. Mais au point de vue de l'interrogation, je ne peux pas m'arrêter à ces deux. Alors ça, c'est le point très délicat. Au point de vue de l'interrogation, qu'est-ce ? Je cherche ce qu'il y a de premier. Or, ce qui est premier ne peut pas être deux. C'est impossible. La dyade n'est pas première. Hein ? Or, au point de vue descriptif, je ramène tout aux deux. Alors, qu'est-ce qui est premier ? La substance première ou la substance seconde ? Quand je dis substance première et substance seconde, vous voyez, j'ai déjà mis un ordre. Qu'est-ce que c'est que cet ordre ? Ah, c'est au point de vue existence. Vous voyez, le jugement d'existence est sous-jacent. Parce que, d'une autre manière, je pourrais dire que la substance seconde, elle est première. Parce que Pierre peut mourir, mais l'homme ne meurt pas. Dans la perspective d'Avicenne, l'homme ne meurt pas. Il est pensé éternellement dans la sagesse de Dieu. Donc l'homme ne meurt pas. Donc point de vue du temps, vous voyez, prédicament temps. Au point de vue du temps, l'homme est premier par rapport à Pierre. Je vois donc que, c'est ça qui est très important à souligner, c'est que quand je prends substance première et substance seconde, je mets un ordre dans l'ordre de l'exister. Au point de vue exister, c'est sûr. C'est la substance première qui seule existe. Homme n'existe pas. Il n'existe que dans Pierre. Vous n'avez jamais vu l'homme en soi. Ce spectre. Vous voyez dans les rêves. Rêvez à l'homme en soi. Hein ? Et si vous rêvez à l'homme en soi, vous viendrez me dire comment vous l'avez rêvé. L'homme en soi n'existe pas, tandis que Pierre existe. Donc, au point de vue de l'exister, c'est net. Substance seconde, ce qui montre très bien, vous voyez, que la table des prédicaments est commandée par l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» L'être qui existe, ce qui est. Parce que au niveau du temps, si maintenant je renverse, et je regarde au point de vue du temps, au point de vue du temps, la substance seconde est première, puisqu'elle ne meurt pas. Elle est éternelle, la substance seconde, en tant qu'elle est pensée. La substance première, au contraire, elle est corruptible. Pierre, il va disparaître. Comme tous les autres individus, il meurt. Tandis qu'homme ne meurt pas. Donc, si je me place du côté du temps, l'ordre est inverse. Si je me place du côté, maintenant, de la détermination, c'est-à-dire de la qualité, si vous voulez, la qualité, qu'est-ce qui est plus qualitatif, homme ou pierre ? Là, je vous coince. Qu'est-ce qui est plus qualitatif, homme ou pierre ? Vous ne pouvez pas répondre directement. Homme, c'est bien plus qualitatif. Et Platon le montre bien, il dit l'homme en soi. L'homme en soi, c'est montrer la qualité dans toute sa pureté. Rien n'est plus pur que homme en soi. Tandis que Pierre, ben oui, Pierre, c'est pas l'homme parfait. Pierre, il a des cheveux noirs. Alors que j'aime les cheveux blonds. On ne peut pas avoir les mêmes hein, en même temps. Donc il y a une option qualitative. Il y a une option qualitative au niveau de substance première. Et la substance première n'est donc pas la qualité en soi. C'est telle qualité, telle manière d'exister. Et je peux pousser. Pierre, il est très intelligent, mais à côté de lui, il y a Jacques, qui a une autre intelligence tout à fait différente. Ils peuvent discuter. Quel est le plus intelligent ? Celui qui a une intelligence intuitive ou celui qui a une intelligence discursive ? Le fort en thème et le fort en version. Il y en a qui sont très intelligents intuitivement, mais au point de vue, dès que vous commencez à analyser, ils ne sont plus du tout là. Ça ne va absolument pas analyser. Lequel est le plus intelligent ? L'homme en soi a les deux types d'intelligence. Donc au point de vue détermination, vous voyez bien, vous ne pouvez pas mettre de premier et de second. Vous mettrez sous tel aspect, l'homme en soi est premier, parce qu'il est dans la qualité toute pure. Sous un autre aspect, la substance première, c'est très important ça. Ça montre que substance première et substance seconde, c'est relatif d'une façon réciproque. Sous tel ou tel aspect, l'un passe devant l'autre. Vous n'avez donc pas de premier absolu. Et ceci sous le point de vue de l'être, puisque c'est sous le point de vue de la détermination, sous le point de vue du temps, sous le point de vue de l'exister. Vous pouvez multiplier ce petit arrangement, c'est très bien. Posez-vous la question, qu'est-ce qui est premier, substance première, substance seconde, sous les différents aspects. Donc, mon intelligence ne peut pas s'arrêter à substance première, substance seconde. Je n'ai pas de premier absolu. Et ça, c'est très intéressant pour faire la critique à Platon. Ça montre que Platon n'a pas été jusqu'au bout. Lui qui dit textuellement qu'on ne peut pas s'arrêter à la dyade, qu'on doit s'arrêter à l'un, eh bien quand il s'agit de l'homme, Platon a opté pour l'homme en soi. C'est triste pour Platon, parce que Platon n'est pas l'homme en soi. Et donc Platon, que j'admire, il est relatif à l'homme en soi. C'est très ennuyeux pour Platon. Tandis que nous ne sommes pas relatifs à l'homme en soi. Moi, je ne me considère pas du tout relatif à l'homme en soi. Je considère que tous ceux qui sont auprès de moi représentent d'autres aspects de l'homme, mais l'homme en soi, je n'ai jamais vu. Donc Platon, en mettant l'homme en soi, vous voyez, relativise Platon. Il se relativise lui-même. Il n'a plus d'absolu. Donc il peut disparaître. Et on peut mettre Aristote à la place. C'est pas gênant du tout par rapport à l'homme en soi. C'est très curieux. Ce philosophe qui est pour l'un s'arrête à l'homme en soi. Donc s'arrête à la qualité. S'arrête à la détermination. La détermination en elle-même. S'arrête à la forme. Parce que c'est la forme, la détermination, la qualité. C'est la forme. S'arrête à cela. Il ne va pas plus loin. Alors que l'un est quelque chose qui, de fait, dépasse la forme. Puisque l'un, on le verra, est attaché à ce qui est radicalement, et non pas la forme. Donc, si j'interroge qu'est-ce que c'est que l'être, je ne peux pas m'arrêter à la substance première, à la substance seconde. Alors ça, c'est très important, parce que c'est le dépassement des prédicaments. Le philosophe de philosophie première ne peut pas s'arrêter aux prédicaments. Donc vous devez, au point de vue pédagogique, vous devez comprendre ce que c'est que les prédicaments pour pouvoir les dépasser. C'est ce qu'on doit faire au point de vue moral. On doit comprendre ce que c'est que la vertu, on doit l'acquérir pour la dépasser. C'est la même chose ici. Vous ne pouvez dépasser les vertus que si vous les avez acquises. Vous ne pouvez découvrir ce qu'est l'être que lorsque vous avez compris ce que c'était que les prédicaments. Mais au moment où vous avez découvert les prédicaments, les catégories, les diverses déterminations de ce qui est, vous êtes obligé de dépasser. Vous ne pouvez pas vous y arrêter. Et ceci en raison même de l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Mais ça, je voudrais que tous vous compreniez ça. Je crois qu'on peut très bien tous comprendre les prédicaments. C'est relativement facile, c'est descriptif. Un être un tout petit peu intelligent comprend ce que c'est que la description. On est tous un peu artistes par notre sensibilité. Donc, on découvre les prédicaments et on découvre qu'on ne peut pas s'arrêter aux prédicaments. Si on a vraiment interrogé qu'est-ce que c'est que l'être. Alors, si je ne peux pas m'arrêter aux prédicaments, je vais me servir des prédicaments pour les dépasser. C'est un merveilleux tremplin. Et face à substance première et substance seconde, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que l'être? Je vois les deux. Substance première, substance seconde, je peux très bien réfléchir sur les deux. Et je dois dépasser les deux. Comment dépasser les deux? Comment découvrir un au-delà de la substance première et un au-delà de la substance seconde? Comment découvrir un au-delà de l'exister au sens fort, le Dasein de Heidegger, l'exister là, ce qui existe là, l'exister là, c'est la substance première, c'est Pierre, l'exister là. Je peux le montrer. Voici l'homme. Tandis que l'homme en soi, vous ne pouvez pas dire voici l'homme, hein, vous le cherchez. Où est-ce qu'il est l'homme en soi? Tandis que quand Pierre passe, on dit voici l'homme. Vous voyez, la parole de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu. Voici, il indique. Et celui qui montre. L'exister là, on le montre. On le montre du doigt. La substance première, Pierre. C'est toute la grandeur de Pierre. Je peux le montrer. L'homme en soi, je ne peux pas le montrer. Et je veux dire, oui, la substance seconde, l'homme, je ne peux pas le montrer. Je saisis. La substance seconde, il est dans mon intelligence. Il est dans ma pensée. Qu'est-ce qui est plus noble? Exister dans ma pensée ou exister dans la réalité? Et je commence à essayer de secouer substance première, substance seconde. Hein. Faut les secouer pour découvrir ce que c'est qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être. Puisque de fait, j'aboutis au point de vue descriptif à ces deux données. Alors je les secoue. Hein. Et nous allons essayer de les secouer bien pour découvrir ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être. Substance, la substance première, Pierre. L'exister là, le Dasein de Heidegger. Je prends ça exprès parce que ça fait partie de ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui. Voici telle personne. Voici Pierre. Voici l'agneau de Dieu. Vous le montrez. Et c'est telle réalité. Exister. Bon, c'est quelque chose d'unique, ça. Il est unique à exister comme Pierre. Et l'homme, il existe dans ma pensée. Qu'est-ce qui est plus noble? Vous voyez tout de suite, c'est ça qui est très curieux. Qu'est-ce qui est plus noble? Exister dans ma pensée ou exister dans la réalité? Mais, bon, c'était la grande question de Descartes. Et c'est la grande question de tous les néoplatoniciens. C'est bien plus noble d'exister dans la pensée, quoi. Moi, je trouve. Parce que l'exister dans la réalité, il est corruptible. C'est la suprême injure au niveau métaphysique de dire il est corruptible. Demain, il n'existera plus. Pantai, ça coule. Demain, cet individu Pierre, que vous dites si noble et si grand, il n'existera plus. Très ennuyeux, ça, au point de vue de l'être. C'est un handicap fameux d'être corruptible. Alors, vous êtes corruptible, moi aussi, du reste. Nous sommes corruptibles. Donc, nous avons un handicap fondamental au point de vue de l'être. On ne peut pas être premier dans l'ordre de l'être puisqu'on est corruptible. Il y en aura un autre qui viendra après. Vous ne pouvez pas absolument pas avoir une espèce de priorité dans l'ordre de l'être puisque vous êtes corruptible. Tandis que celui qui existe dans la pensée n'est pas corruptible. Celui qui existe dans la pensée, bon, mais il a quelque chose de bien plus noble, il a quelque chose d'éternel, il est universel. Au-delà de la corruptibilité, il restera toujours, il est dans la pensée. Puisqu'il est dans la pensée, l'homme, il est pensé, il est dans l'intelligence, il est supérieur à Pierre qui existe. Donc il a une noblesse. Au point de vue de la noblesse, je ne peux pas nier, il a une noblesse plus grande. Voyez la grande tentation là, de Descartes, de dire que ce qu'il y a de plus noble, c'est ce que je pense. Et donc, ma philosophie, je la commence par la pensée. C'est tout le néoplatonisme. Platon se pose textuellement presque le problème. Pas comme je le dis là. Mais pratiquement. La réalité qui existe, corruptible. Et puis ce que je pense. Parce qu'il est pensé à une noblesse unique. Ce qui existe, il est corruptible. Alors, est-ce que c'est quand je suis pensé, où il y a une noblesse plus grande, est-ce que de fait, au niveau de l'être, qu'est-ce qui est premier? Qu'est-ce qu'il vaut mieux retenir? Il vaut mieux retenir l'homme en tant qu'il est pensé, ou l'homme en tant qu'il existe en Pierre? L'homme, en tant qu'il est pensé, a une noblesse unique, mais il y a quelque chose qui manque. C'est qu'il est dépendant de ma pensée. Donc il est relatif. Il n'a pas d'autonomie. Tandis que Pierre, qui existe, même s'il est corruptible, il a au moins une autonomie, dans l'être. Il subsiste. Tandis que l'homme pensé, en tant qu'il est pensé, est relatif à la pensée. Donc il est second. Et c'est la pensée qui est première. Mais la pensée, c'est pas l'être. Vous voyez, là encore, je saisis que l'homme, en tant qu'il est pensé, a une noblesse particulière, mais d'autre part, cette noblesse, elle coûte très cher. Elle coûte très cher, cette noblesse, puisqu'il faut devenir relatif à la pensée. Très ennuyeux, ça. C'est un titre de noblesse qui coûte très cher. Faut être relatif à la pensée. Et donc plus d'autonomie. Et là, c'est la pensée qui va mieux. Est-ce que la pensée est avant l'être? Oui, tout de suite, le problème, pensée-être. Est-ce que je peux considérer que ce qui est pensé est premier? Mais non, on est dans l'ordre de l'intentionnalité, c'est pas premier. C'est pas premier, c'est relatif à la pensée, c'est relatif à autre chose. Si noble qu'il soit. Tandis qu'au moins Pierre, il existe, il subsiste en soi. Il a donc en lui-même une autonomie, il subsiste en lui-même. Donc, au niveau de l'être, vous voyez, encore une fois, puis-je choisir au niveau de l'être? Non. Puisque exister là a une autonomie, dans l'ordre de l'être, il subsiste. Et ici, il est relatif. Mais ce relatif a une noblesse unique, et ce qui subsiste, il a une corruptibilité. Je vois donc qu'au niveau de l'être, il y a quelque chose de premier dans la substance première, quelque chose de premier dans la substance seconde. Donc si j'interroge qu'est-ce que c'est que l'être, je dois les retenir tous les deux. Ça, je crois qu'on peut très bien saisir ça. Hein. Dans l'ordre de l'être, je ne peux pas opter pour l'un ou pour l'autre. Si j'opte pour l'un ou pour l'autre, voyez, je m'enferme dans le primat de la pensée et l'être n'est plus premier. Et donc, je vais contre mon jugement d'existence. Ceci est que j'affirme, et que j'affirme comme quelque chose d'autre que moi, et premier par rapport à moi, parce que ça me mesure. Ce qui est mesure la pensée, et donc la pensée ne peut pas être première. Donc je ne peux pas opter pour la primauté absolue de la pensée, ou bien alors je m'enferme dans l'idéalisme. Je m'enferme dans la position de Descartes. Je m'enferme dans la position du néoplatonisme, où l'idéalisme, la pensée est première. Et j'abandonne l'autonomie première dans l'ordre de l'être. Mais si maintenant je fais l'inverse, je dis, oui, ça, la pensée c'est second, c'est très, ça n'a pas du tout. Ce qui est important, c'est de subsister. Oui, c'est très bien, ça. Mais alors, j'accepte que le fait s'impose et que je ne cherche pas à savoir ce que c'est. Le datour, il y a, dépasse le jugement d'existence, ceci est. Mais comme c'est curieux, on trouve là les deux grands courants de la pensée. Parce que j'ai opté pour la substance première, ou que j'ai opté pour la substance seconde. L'idéalisme, ou au contraire ici, le positivisme. Je considère que le fait, c'est ce qui existe. Montrez-moi si ça existe. Le fait, c'est ce qui existe, c'est pas tout ce qui est pensé. Allez-y avec vos pensées. N'est qu'à regarder un mécano devant un philosophe. Enfin, vos pensées, vos idées. On en a, ça ne se vend pas sur le marché, les idées. Ce qui se vend sur le marché, c'est les écrous. C'est bien plus important. Ça se vend sur le marché, ça. Ça existe. Tandis que la pensée, oui, positivisme et l'idéalisme, C'est très très curieux ça. Mais c'est très intéressant parce que ça montre combien l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» face à la substance seconde, face à la substance première, me met devant une question absolument première au point de vue philosophique. Ça, comprenez bien ça, parce qu'il y a là une gare de triage au point de vue philosophique qui est capitale. Où vous acceptez de dire je suis devant une dualité, cette dualité pierre-homme, cette dualité, je ne peux pas opter pour l'un ou pour l'autre. Parce que si j'opte pour l'un, c'est-à-dire pour Pierre, j'abandonne tout ce que représente le point de vue de la détermination, le point de vue de ce que représente l'intentionnalité, le contenu de la signification de l'homme. Je ne cherche plus à connaître la signification des choses. Et je mets le primat au fait d'exister. Ou bien si, au contraire, j'abandonne la substance première pour regarder uniquement la substance seconde, je m'enferme dans ce qui est pensé, l'intentionnalité. C'est très noble, mais je ne rejoins plus le réel. Je ne rejoins plus le petit caillou qui existe. Je ne rejoins plus ce qui s'impose à moi comme extérieur à moi. Je m'enferme dans l'immanence de ma pensée. Et je n'accepte que ce que je pense, ce qui est pensé par moi. Le reste, je laisse tomber. Voyez, je suis devant deux voies. C'est pas les deux voies de Parménide, mais c'est presque les deux voies de Parménide. C'est presque les deux voies de Parménide. C'est très très curieux. Les deux voies de Parménide, c'est le corruptible et l'incorruptible. Ils ont les deux voies ici. J'opte pour l'incorruptible. L'incorruptible, pour moi, il m'est donné dans ma pensée. C'est l'homme. Le corruptible, c'est Pierre. Et je sens bien qu'en optant d'un sens ou de l'autre, je suis infidèle à mon interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Je commets donc là une terrible faute au point de vue de l'interrogation. C'est pour ça que, vous voyez, pour dépasser l'idéalisme et le positivisme, il n'y a qu'une seule manière, c'est de revenir à l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Et si je reviens à l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?», je vois que je ne peux pas opter pour l'idéalisme positivisme. Puisque là, je commets nettement une erreur contre l'interrogation, puisque je laisse tomber délibérément tout un aspect de ce qui est. Ça, essayez de bien saisir ça, parce que ça me semble capital, au point de vue philosophique. Ça me semble capital pour bien comprendre que la philosophie première, la métaphysique, quand elle se pose la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?», dépasse nécessairement l'idéalisme et le positivisme. Je me place au-dessus. Et ça, c'est la grandeur de Heidegger, vous voyez ? Il faut le reconnaître. Heidegger était en face de Husserl, qui mettait le primat de l'intentionnalité. Husserl qui commente les méditations de Descartes. Donc on ne peut pas comprendre Husserl sans regarder Descartes. Et c'est très curieux, parce que tous les deux sont matheux. Et tous les deux mettent le primat des maths. C'est toujours c'est extrêmement curieux, ça. Ça, c'est la grande vision platonicienne, je crois. c'est que les mathématiques jouent un rôle de tremplin dans cette vision d'un primat d'intentionnalité. Alors, Heidegger a compris que l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» m'obligeait de dépasser la phénoménologie du cerne. M'obligeait de dépasser l'idéalisme de Descartes. Et « qu'est-ce que c'est que l'être ?» m'oblige de dépasser le positivisme. Qu'est-ce que c'est que l'être m'oblige de dépasser le dualisme kantien. La forme en soi, c'est l'homme en soi. Et le noumen inconnaissable, jugement d'existence, Pierre. Pierre, c'est le noumen, en tant qu'il existe. Alors Heidegger a compris l'importance de l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Parce que si je mets tout le poids de mon intelligence sur l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?», je ne peux pas opter pour une voie ou l'autre sans renier l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?». Si mon interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» est pour moi quelque chose d'essentiel, je vois que je ne peux pas choisir l'idéalisme ou le positivisme. Parce que l'idéalisme et le positivisme, tous les deux, sont infidèles à l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?». Il faut donc revenir à l'interrogation à travers les deux pour prendre une position qui est au-delà des deux. Et qui correspond bien à l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ? Est-ce que je peux le faire ?» Si je suis kantien, je dis non. Si je suis heideggerien, je dis non. Ah, c'est lourd. Est-ce qu'on va être plus intelligent qu'Heidegger ? Est-ce qu'on va être plus intelligent que Kant ? Et que Descartes ? Oui, c'est très beau de la part de Heidegger d'avoir mis ce poids sur l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?». Alors évidemment, il était essoufflé. Je comprends très bien. C'est comme le chantre quand il... Il donne un cucus de tellement formidable qu'après, il n'y a plus rien. Ça dégringole, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Il était en admiration devant ça. Je ne peux pas suivre Descartes et Husserl, je ne peux pas non plus tomber dans la position d'un positivisme qui ne regarde que la réalité existante. Donc, je reste uniquement « qu'est-ce que c'est que l'être ?». Et si je réponds à l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?», je diminue mon interrogation. Alors, je n'ai pas le droit de diminuer. Il faut trouver une voie d'accès, une découverte, qui ne diminue pas la grandeur de l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Et ça, c'est pas commode. C'est pas commode du tout. Hein. J'espère que vous voyez bien. Hein. C'est au fond très angoissant, ça. Si on a un peu le sens philosophique, c'est terriblement angoissant. Je suis devant deux voies bien, bien notées. Et l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Mais je ne peux pas choisir. Alors j'aime mieux rester. Moi, j'aime beaucoup mieux. Vous savez, c'est comme quand la nuit, avec du brouillard, vous avez une... Alors, faut-il à droite, faut-il à gauche ? Aucune indication. Pas de carte. Et deux autoroutes. À droite, à gauche. Je me rappelle. Oh, vaguement. Oh oui, on est allé à droite. Et puis l'autre dit, mais non, on est allé à gauche. Alors, on reste là. En attendant qu'il y ait un nouvel individu qu'on puisse arrêter et demander l'interrogation. Oui, en face d'une gare de triage. Faut-il aller d'un sens, faut-il aller de l'autre ? Si je prends ce sens-là, ça ira très loin. Si je prends l'autre, ça ira très loin. De Descartes à Husserl. C'est quand même quelque chose, hein, que la philosophie à partir de Descartes a été dans ce sens-là, c'est vrai, jusqu'à Husserl. Il ne voit pas comment on peut dépasser. Donc vous avez une petite voix dedans. Et l'autre côté, vous êtes en face du positivisme. Alors, vous dites, oh, il n'y a qu'une seule manière de dépasser ces deux aspects. Restons, qu'est-ce que c'est que l'être? Et je resterai toute ma vie devant cette interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Là, au moins, je ne choisis pas. Je me souviens, c'était mon bon professeur de philosophie dans le temps, qui disait, chaque fois que je choisis, je perds quelque chose. Alors ne choisissons jamais.